Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. C'est une nouvelle édition de l'heure du crime avec toute l'équipe que vous connaissez. Justine Vigneault, bien sûr, Laure Broulard. Et puis aujourd'hui, c'est Alexandre Cagzan qui est aux manettes techniques de notre émission. Et à la une, ce témoignage exceptionnel auquel on faisait allusion quand on en parlait juste avant les informations avec Vincent Parisot et Christelle Rebière. Et je voudrais dire, avant de saluer mon invité et de lui donner la parole, mes invités, parce qu'il y a également avec nous une journaliste qui a suivi cette affaire et le procès, un meurtre fait beaucoup plus qu'une seule victime. On sait que en général la famille de la victime, les proches sont évidemment dévastés par ce qui s'est passé. On pense rarement que c'est exactement la même chose du côté de l'auteur des faits, meurtrier ou meurtrière. Vous imaginez dans quelle situation on peut se trouver lorsque quelqu'un avec qui on vit depuis des années et des années vous dit un matin, voilà, ben ce meurtre, c'est moi qui l'ai fait. C'est exactement ce qui vous est arrivé, Philippe Beau.
Oui, c'est tout à fait ça. Un mauvais matin, je dirais, à 7h, alors que l'enquête policière est en cours. On la suit à la maison, comme d'autres la suivent depuis plusieurs jours, puisqu'en effet, le corps du patron de mon épouse a été retrouvé, criblé de balles, quelques jours auparavant. Une perquisition a lieu la veille de cet aveu. Et donc, en effet, le matin, à 7h, elle me dit, c'est moi qui l'ai tué.
Alors, il faut comprendre pourquoi une perquisition chez vous. Parce que la victime est le PDG d'une petite entreprise locale. Ça se passe dans la Loire. Enfin, d'une belle entreprise, d'ailleurs, fait de la menuiserie à l'U, etc. Et votre épouse, Bettina, travaille avec cet homme. Et d'ailleurs, depuis la création de la société.
Elle est à l'origine de l'entreprise avec cet homme, avec Philippe Gletti. L'entreprise a à peu près 11 ans d'existence au moment des faits.
Votre épouse est la secrétaire de direction, l'attachée de direction du PDG.
Oui.
Alors je voudrais aussi saluer la présence dans notre studio de Laurence Perbet. Bonjour. Et merci alors d'avoir accepté de venir aussi cet après-midi pour évoquer cette affaire. Vous êtes journaliste au Progrès. Une affaire comme celle-là, c'est pas tous les jours, enfin les circonstances, malheureusement des meurtres, il y en a beaucoup, mais lorsque vous avez appris, vous, en tant que journaliste, que l'auteur des faits était d'abord une très proche de la victime, mais qu'en plus elle avait fait ses aveux à son mari qui ne se doutait de rien, j'imagine que ça a été un très très grand étonnement, non?
C'est vrai qu'au départ, en plus, on pensait à une exécution, on parlait de mafia, on parlait de... Les pistes ont été longues. Et puis effectivement, pour être attiré dans ce lieu, ça ressemblait à un guet-apens. Donc il fallait forcément que Philippe Gletti ait été attiré par quelqu'un qu'il connaissait. Donc je pense que c'est pour ça aussi que les enquêteurs rapidement sont penchés sur l'entourage professionnel et familial.
Et familial, voilà.
Un peu toutes les choses sont arrivées.
Ouais. Il faut rappeler donc à la fois les faits, la personnalité des uns et des autres. Début mars, donc cet homme disparaît et sa famille évidemment est très inquiète d'être sans nouvelles et va appeler évidemment.
Précisément le 27 février. Oui. Le 27 février, donc c'est le jour où il va être assassiné.
Personne ne le sait à ce moment-là. Donc la famille s'inquiète parce qu'il a
le 27,
il a
c'est une disparition. Oui. Et d'ailleurs, mon épouse a une phrase assez terrible aujourd'hui avec le recul, puisqu'elle rentre le 27 au soir, comme d'habitude, vers 19h avec notre fille, et elle me dit, je comprends pas ce qui s'est passé, mais j'avais rendez-vous avec Philippe Gletti cet après-midi pour faire un point financier, il est pas venu. Je l'ai appelé sur son portable, je suis tombé en messagerie, j'ai laissé un message, il m'a pas rappelé, donc voyant l'heure passer, je suis rentré. Ouais. Voilà, alors qu'elle l'avait tué le matin à 11h.
Ouais. Et 11h30. Vous n'avez rien décelé
Non, elle me l'a dit comme je vous le dis là, à l'instant, ouais. c'est-à-dire sur un ton calme. Ouais. Et puis, en effet, après donc la famille de Monsieur Gletti a signalé cette disparition. Et puis ensuite, les choses ont évolué. Ouais.
Ouais. Alors vous, à cette époque-là, vous vivez ensemble depuis 24 ans.
Ans, oui.
Vous avez une jeune fille,
qui a 16 ans, hein. En effet, oui.
La famille de la victime, il est marié, il a deux enfants.
C'est ça.
Vous, vous connaissez ?
Alors, on se connaît sans se connaître, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'aller à l'entreprise pour retrouver mon épouse, donc c'est bonjour, bonsoir, voilà. Et par contre, je participe à une soirée en 2011 qui est la soirée des 10 ans de l'entreprise. Alors, c'est une soirée dans un faste énorme, important, il y a plus de 300 invités, enfin bon. Ouais. Donc je fais un peu plus connaissance, on va dire, avec l'entreprise de mon épouse et les gens donc qui y travaillent.
Voilà. Et elle vous parle, donc elle a monté les échelons, quoi,
c'est-à-dire que la
société s'est créée début 2000, hein, je crois.
Voilà, ils ont travaillé d'abord ensemble dans une autre entreprise où ils étaient tous les deux employés, salariés, et puis Philippe Gletti décide un jour donc de monter sa propre société et demande à mon épouse de l'accompagner et d'être son attaché de direction, hein, son bras droit, on va dire, hein. Et ça démarre comme ça, ça démarre à deux et ça finit à presque 50 employés. Donc c'est une belle réussite.
Une belle progression.
Tout à fait,
belle réussite personnelle pour Bettina aussi, qui est vraiment un pilier de la maison. Quoi.
Philippe Gletti lui trace un plan de travail, il le suit. Et
vous, Laurence Perbet, évidemment, les journalistes essayent d'en savoir le plus possible, hein, sur tout ça. On l'a dit, les gendarmes au début pensent que ça va être long et difficile, parce que c'est un homme qui a pas une vie particulièrement qui puisse expliquer un meurtre, quoi.
Pas du tout. C'est un employeur qui est très apprécié de ses salariés. C'est vrai que c'est une entreprise qui a grandi très très vite, une ascension fulgurante. Et
qui arrive le matin, il va saluer ses employés, parce que vous avez interviewé.
C'est vraiment l'homme, le cerveau, le cœur, le poumon de cette entreprise qu'il a vraiment. Et avec Bettina qui elle est dans le sillage, mais qui à un moment donné a perdu pied.
Alors voilà, ça on y viendra, parce qu'évidemment tout le monde se dit mais comment un drame pareil a pu se produire. On s'interroge toujours sur le mobile, sur le passage à l'acte. On sait que c'est très compliqué, d'ailleurs souvent les psychologues, les psychiatres se cassent les dents pour essayer de comprendre. Les auteurs de faits criminels ne facilitent pas le travail, il faut dire, des autres, parce que pour des tas de raisons qu'on peut aussi comprendre, gardent souvent une zone d'ombre qui n'est jamais éclaircie, même après un procès. Alors, on va dire que votre épouse Bettina est passée aux assises 2 ans après. Elle a été condamnée à 18 ans de réclusion. Oui. Elle n'a pas fait appel, je crois.
Non.
Elle n'a pas fait appel parce qu'elle assumait totalement son acte. Elle n'a jamais pu vous l'expliquer clairement, mais ça, on va en parler. Car évidemment, on va revenir à cette matinée incroyable que vous allez nous raconter dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Et à la une de notre émission, ce témoignage de Philippe Beau. Je voudrais dire d'abord merci d'avoir nous avoir. Vous nous avez contacté par RTL.fr, hein, comme le font beaucoup d'auditeurs à qui on dit si une affaire criminelle vous a particulièrement frappé, dites-le nous. Dites-nous surtout pourquoi elle vous a frappé. On verra si on peut éventuellement mettre cette affaire à la une de l'émission. Et je voudrais que vous le redisiez maintenant pour ceux qui écoutent et qui se disent mais pourquoi parler de ça, quoi, voilà, publiquement. Il n'y a pas d'impudeur de votre côté ou de côté voyeur du tout. Il y a une raison qui fait que vous voulez parler publiquement de ce qui vous est arrivé.
Oui, parce que on met de façon juste toujours en avant les familles de la victime, ce qui est ce que je comprends totalement, mais sont vraiment laissés pour compte les familles de l'accusé. Voilà. Et il y a une souffrance énorme. Si je prends le cas de ma fille qui avait 16 ans au moment des faits, c'est un choc énorme. Ouais. Pour moi, 24 années de vie commune, qui se passe normalement, on va dire, c'est pareil.
C'est un monde qui s'effondre.
Ah oui,
quoi.
Complètement. Là, ouais. c'est vraiment un tsunami qui passe sur la ville. Là, oui.
Et votre fille devient la fille de la meurtrière.
Voilà, voilà. Ah oui, dans les réseaux sociaux, elle se fait traiter de fille de meurtrière. Moi, j'ai des gens qui me tournent le dos. Voilà, donc.
Oui. Alors qu'évidemment, vous n'êtes, en l'occurrence, responsable de rien. Mais on va en parler tout à l'heure. C'est que vous avez été soupçonné, évidemment, par les enquêteurs. Alors, je voudrais en parler du procès tout à l'heure, au cours duquel Bettina Beau a donc été condamnée à 18 ans de prison. Après avoir été condamnée à 18 mois de prison avec sursis pour des irrégularités financières, on va dire détournement, hein, c'est ça?
Ah oui, le mot juste, il est là, oui. C'est
détournement d'argent. Alors, c'est peut-être une des clés de ce drame. Mais on va écouter un document RTL qui date de l'ouverture du procès le 21 mai dernier, donc 2014. Et Frédéric Perruche assistait au débat pour RTL. Et il revenait dans son papier sur les circonstances du crime, évidemment évoquées dans cette première audience.
Ce 27 février 2012, Bettina Beau donne rendez-vous à son patron, qui est aussi son amant, dans un endroit tranquille en lisière de forêt. Mais la promenade bucolique est de courte durée. La secrétaire modèle sort alors son arme de petit calibre empruntée à son mari et tire froidement à plusieurs reprises sur Philippe Gletti, André Buffard, un des avocats de la famille.
L'acte final ressemble à une exécution. Un guet-apens bien préparé, lui tire une première balle dans le dos, il se retourne, elle lui tire une deuxième balle dans la tête, puis ensuite l'achève alors qu'il roule dans le fossé. Ça, effectivement, tout d'une exécution.
Stress au travail, détournement d'argent, liaison à bout de souffle sur fond de dépression profonde et de fragilité chronique, autant de facteurs qui expliquent ce geste terrible, selon le défenseur de Bettina Beau, David Metaxas.
Bettina se sacrifiait absolument à sa société. Sans doute n'a-t-elle pas eu les fruits qu'elle escomptait de ce sacrifice. Et puis, elle s'est sentie femme objet sur l'aspect sexuel des choses. Sans doute ne s'est-elle pas retrouvée dans cette relation adultérine. Tout cela, elle ne l'a plus supporter.
La secrétaire de direction, mère de famille de 43 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Et donc, elle a été condamnée à 18 ans de réclusion sans faire appel. On reviendra tout à l'heure sur ce procès qui est toujours un moment de vérité important, un procès avec vous, donc Laurence Perbet, puisque vous l'avez suivi pour Le Progrès. Mais là, on va revenir avec vous maintenant, Philippe Beau, qu'on comprend mieux le contexte de toute cette affaire. Pendant 8 jours, votre épouse, qui est une proche, et peut-être encore plus proche, mais ça on va en parler tout à l'heure, du PDG de cette société, a un comportement tout à fait normal. Elle va même consoler, si j'ose dire, la famille du disparu, avant qu'on trouve son corps. Hein,
Oui, elle connaît bien les filles de Philippe Gletti, elle connaît bien les parents de Philippe Gletti, et moi elle va me dire, pendant la semaine, avant ses aveux, elle va me dire, tu sais, j'ai eu la maman de Philippe au téléphone. Elle est vraiment, avant que le corps soit retrouvé, hein, elle est vraiment surprise. Elle m'a dit, ça ne ressemble pas à mon fils. Alors bon, on sent qu'il y a en effet
personne ne peut comprendre, et elle-même se met dans le
complètement
quoi.
Complètement. Oui. Ouais. On suit l'actualité, que ça soit par les journaux, par la radio, par la télévision. Elle fait ses commentaires comme moi je fais les miens. Enfin voilà, c'est tout à fait normal. Mal.
Ouais. Alors, il y a cette perquisition parce que c'est vraiment le facteur déclenchant, c'est-à-dire que les gendarmes font leur métier, c'est-à-dire en général on fait des cercles excentriques, hein, on va dire, on part des très proches de la famille, de l'environnement de la victime, et puis on voit quelles étaient ses relations, et puis tout le monde passe à cette moulinette qui en fait est le béaba de l'enquête policière, mais qui amène souvent au succès, hein, parce que près de 90% des meurtres, des affaires criminelles touchent des proches, hein, en fait, ou des relations proche. Et donc, les gendarmes débarquent chez vous la veille du 9 mars, donc le
7 mars exactement.
Le 7 mars, débarquent chez vous pour une perquisition, c'est-à-dire qu'elle a été entendue, votre épouse a été entendue l'après-midi,
c'est la deuxième fois qu'elle est entendue. Le 7 mars, c'est depuis le matin et vers 11h, vers 10h, 11h, donc je vois deux gendarmes en civil qui arrivent avec mon épouse. Oui. Et c'est pour une perquisition. Je suis pas surpris puisque on en avait même parlé avec mon épouse quelques jours avant en disant de toute façon comme tu es l'approche collaboratrice de Philippe Piatti, il y aura certainement une perquisition. Oui. Mais quand on n'a rien à cacher, voilà. Et la perquisition se passe tout naturellement avec une saisie des ordinateurs pour examen. Ce que je trouve tout à fait normal. Et ensuite, donc la question avez-vous des armes? Je dis oui, j'ai quelques armes de collection. Je leur montre les armes. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, je vois l'un des gendarmes qui se questionne un petit peu sur une arme de poing 8 mm qui est présentée dans ma collection. Bon. Alors, il insiste en me disant, mais vous êtes sûr que c'est un 8 mm? Bon, j'ai dit, oui, bien sûr, oui, c'est mon arme, je le sais, donc oui, bien sûr. Bon.
Donc on saisit évidemment analyse.
Tout part, et je suis convoqué le soir pour signer les documents. Je descends la gendarmerie le soir, tout se passe bien. Ma voiture est retenue aussi, celle de mon épouse l'a été, et on remonte à la maison ensemble avec mon épouse à sa sortie d'audition, grâce à un ami qui nous prête un véhicule à ce moment-là.
D'accord. Voilà. Et la soirée se passe.
La soirée se passe quasi normalement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je prépare le dîner, et à un moment donné, je reviens dans le salon, elle pleure. Elle pleure, je vais la consoler, je me dis, bon, elle a passé une journée en audition, tension nerveuse, disparition de son patron, bon, ça fait beaucoup de choses. Elle craque pendant 2-3 minutes, je la console, tout va bien. Et on va se coucher, voilà.
Et tout va bien.
Voilà, tout va bien jusqu'au lendemain matin,
7h du matin, le petit déjeuner, vous descendez, vous la trouvez dans Chopin,
Oui, comme on n'a plus qu'un véhicule prêté donc par un ami, je le répète, je dois emmener ma fille à un stage de formation à côté de la maison et mon épouse à son travail. Et moi, je suis convoqué depuis la veille pour une audition à mon tour vers 9h, 9h30. Oui. Et là, je la trouve dans le salon, prête, habillée, et elle pleure. Dans ma tête, je me dis, ça y est, ça repart comme hier soir, les nerfs reprennent le dessus, donc je vais pour la consoler, et là, elle relève la tête, et c'est là qu'elle me dit, c'est moi qui l'ai tué. Alors, je dis, non, c'est pas possible, c'est pas toi, c'est pas... Voilà, c'est ma réaction de c'est ma première question, et si, c'est moi qui l'ai tué. Mais je lui dis, mais pourquoi tu l'as tué? J'en avais marre, je pouvais plus le supporter. Je dis, bon, on tue pas les gens parce qu'on peut plus les supporter. Je veux dire, c'est fou, quoi. Et je lui dis, tu as tué avec quoi? Avec une de tes armes. Alors là, c'est encore un coup de massue, voilà. Et puis après, s'enchaîne, bien sûr.
Après, on reparlera, parce qu'après, évidemment, vous la conduisez à la gendarmerie. Voilà, de toute façon, vous devez y aller. Votre fille, l'assiste à cette scène?
Notre fille arrive sur cet entrefait pendant cet entretien rapide avec mon épouse. Maman, pourquoi tu pleures? Je lui dis, écoute, va finir de te préparer. Ouais. Maman, elle craque, c'est les nerfs. J'essaye de la protéger. Voilà, j'essaye de la protéger au maximum. Je veux qu'elle parte à son stage sereinement. Ouais. Et puis le soir, on verra comment lui apprendre la nouvelle.
Alors, on va faire une pause dans cette émission. On va se retrouver tout de suite après, parce que évidemment Philippe Beau, qui vient d'avoir ses aveux incroyables de quelqu'un avec qui il vit depuis 24 ans. Et qui n'a rien soupçonné depuis les 8 jours qui viennent de se passer, va évidemment tenter de comprendre et de trouver le mobile de toute cette affaire. Et nous revenons avec Philippe Beau et avec Laurence Perbet dans un instant, qui est journaliste au Progrès, sur cette affaire évidemment hors norme, un mari qui apprend comme ça que sa femme a assassiné son patron et qu'elle a utilisé l'arme du crime. Bah, elle est à vous, Philippe Beau. Donc l'arme a été saisie, il y a eu cette perquisition dont vous avez parlé. Donc vraisemblablement, tout ça a certainement participé au fait que 7h du matin, Bettina vous dise, bon ben voilà, c'est là, elle était dans la la nasse, parce qu'on allait analyser l'arme.
C'est le déclencheur. C'est le déclencheur. Elle voit qu'elle ne peut plus continuer à mentir. Donc, voilà, elle craque à ce moment-là. Et je pense qu'elle a peut-être essayé aussi de m'avouer ce crime la veille au soir, quand elle a justement...
Quand elle a déjà craqué une première fois, oui, d'accord.
Cette crise de larmes, entre guillemets. Bon, ça n'a pas été au bout. Et bon, c'est le lendemain que ça se décante, quoi, voilà.
Et donc, vous l'amenez à la gendarmerie.
Alors voilà, je cherche donc à protéger notre fille. Ouais, je l'emmène à son stage. Et puis, bien sûr, je cherche aussi à prévenir quelqu'un qui va venir la récupérer le soir. Parce que je me doute bien que d'emmener mon épouse à la gendarmerie, je vais y rester aussi. Ouais, je pense pas encore franchement à la garde à vue, mais je me dis, bon, ça va durer un certain temps.
Ouais. Alors, vous allez chez le gendarme. Elle redit tout de suite au gendarme ce qu'elle
en
vous
arrivant,
a dit.
Donc, moi, je pars d'un côté, elle de l'autre, et je ne la revois plus après. Hein,
d'accord.
Donc, mais Dieu merci, elle reste sur sa position parce que
en fait vous êtes mis en garde à vue, ce qui est normal, mais vous allez vous apercevoir au cours de cette garde à vue qu'en fait les enquêteurs ont une autre version de l'histoire. Ils ne croient pas vraiment aux aveux de votre épouse.
Voilà, c'est-à-dire qu'au début, on m'écoute comme un témoin, et puis très rapidement, au bout d'une heure, je passe pour l'auteur des faits, parce que je sais que mon épouse a eu une relation avec Philippe Gletti, donc les armes m'appartiennent, donc je suis le mari jaloux qui tue l'amant de sa femme et qui fait porter le chapeau à son épouse. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et alors en plus... je n'ai pas d'alibi sur le fameux 27 février entre 11h et midi. Il s'est passé 10 jours, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai fait. Donc voilà, tout va mal, quoi. Va mal.
Et en plus, vous avez en tête ces aveux de votre épouse. Parce que vous savez que vous ne l'avez pas tué.
Absolument.
Eux, pas forcément. Quoi,
Voilà.
Et elle, de son côté, en garde à vue, donc, en même temps, continue, vous l'avez su après, j'imagine.
Elle est restée sur sa... sa première version des faits. Ouais. Bon, elle complète en donnant plus d'éléments qu'elle m'en avait donné au départ. Mais elle dit j'ai été seule. Parce qu'il y a eu un moment, un doute sur le fait qu'elle ait vraiment agi seule. Hein, d'ailleurs, il avait même été dit est-ce que le corps n'a pas été déplacé.
Auquel cas, il aurait fallu certainement plusieurs personnes.
Elle confirme non, j'étais seule.
Et qu'est-ce qui fait. Alors, votre garde à vue dure d'abord 24 heures, puis elle est prolongée de 24 heures. Ouais. Hein, légalement, qu'est-ce qui fait que vous ressortez libre et vous n'êtes pas mis en cause?
Alors déjà la prolongation, c'est parce que je passe devant la juge d'instruction qui me dit brutalement, monsieur, je ne sais pas ce que vous avez raconté à votre famille hier soir, mais ce crime n'est pas féminin.
Ah.
Bon, alors j'ai dit, écoutez, il est peut-être pas féminin, mais c'est pas moi l'auteur du crime de toute façon. Et c'est ce qui déclenche les 24 heures complémentaires. Je ressors au bout donc des 48 heures parce que on trouve un alibi. Je dis bien on, c'est-à-dire que les gendarmes vont m'aider à me remémorer cette fameuse journée, cette matinée-là. Et Dieu merci, je reçois un coup de téléphone parce qu'ils ont analysé bien évidemment
les appels téléphoniques,
portables, fixes, même internet, etc. Et j'ai quelqu'un qui m'appelle pratiquement à 11h du matin ce jour-là. J'ai une conversation de quelques minutes et je m'en souvenais plus. C'est eux qui me disent, mais attendez, il y a monsieur Intel, vous le connaissez, il vous a appelé. D'accord. Et là, après ça revient. Alors, matériellement, je ne peux pas être à la fois chez moi à 11h et puis à 11h, 11h30 sur les lieux du crime. Donc, c'est ce qui me libère, en fin de compte, de cette charge, de cette accusation.
Alors, on va faire une pause là, très très rapide, et puis ensuite avec vous et avec Laurence Perbet, on va en venir aux multiples questions que pose cette affaire, à la fois sur les mobiles, on va revenir un peu sur l'histoire de cette société, des relations entre cette femme dont vous saviez qu'elle avait eu une relation avec lui, mais vous pensiez, je crois, que c'était terminé.
Tout à fait.
Ce n'était pas tout à fait le cas. On va en reparler dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Et à la une de l'heure du crime, cette histoire incroyable que nous raconte depuis le début de l'émission Philippe Beau. Sa femme lui avoue un matin, à 7h du matin, qu'elle est l'auteur du meurtre de son patron, alors que depuis 8 jours, rien ne lui laissait, ne pouvait lui laisser soupçonner cela, parce que, mais on y reviendra tout à l'heure, elle avait vraiment pas changé d'attitude, et elle avait même, sinon participé aux recherches, tout au moins voilà, fait part de son inquiétude, comme les autres. Je viens à vous, Laurence Perbet, parce que je disais tout à l'heure, vous avez suivi le procès pour le Progrès, et le procès, c'est 3 jours de procès, hein, je crois. Le procès, on prend le temps vraiment de tout, comment dire, de...
C'est une mise à nu.
C'est une mise à nu totale de la personnalité des uns et des autres, et de la victime d'abord.
Également.
Et les mobiles possibles, on parlera des plaidoiries plus tard et des réquisitions plus tard. Qu'est-ce qu'on apprend sur la victime?
Ben, on apprend que c'était un homme à femme. Ça apparaît y compris sa veuve qui en parle en disant qu'il avait croqué la
addiction,
vie.
Oui, voilà, parce qu'il avait eu un accident,
il avait 10 ans je crois, et sa femme disait que qu'en fait il croquait la vie,
comme
si chaque jour
était le dernier.
Ouais. Donc en fait, beaucoup de femmes, des voitures de luxe. C'était un homme qui avait réussi et qui croquait. Et donc, je pense que c'est une des raisons d'ailleurs qui ont.
Ouais. Alors de ce côté-là, Philippe Beau, donc vous saviez que votre femme avait eu une relation, mais au début.
Au tout début, même avant la création de la société. Hein, c'était dans la période où ils travaillaient ensemble dans une ancienne d'accord. entreprise. Mmh. Et on en avait parlé. C'est vrai que c'était à un moment de notre vie un petit peu mouvementé, comme ça arrive dans différents couples. Et on avait décidé donc de tourner la page. Voilà, en adulte responsable, on a tourné la page, et puis elle m'a dit c'est terminé. Alors, bien évidemment, je savais qu'ils travaillaient ensemble, donc je pouvais
supposer,
être voilà,
oui.
On peut tout supposer dans ces cas-là.
Et en fait, ils avaient gardé des relations occasionnelles, c'est ça?
C'était occasionnel, d'après ce qu'elle m'a dit. Lorsque moi je l'emmène à la gendarmerie, justement, on en parle pendant le trajet, et elle me dit oui, c'est arrivé quelques fois.
Oui. Bon. Laurence Perbet.
Oui, c'est vrai que au procès, ça a été un des moments marquants du procès où une des anciennes maîtresses de Philippe Glietti a dit, mais le problème, c'est que Bettina était le sextoy de Philippe Glietti. Ça, c'est vrai que c'est une image. C'était vraiment devenu. Un objet sexuel. Enfin,
Elle-même ne dit pas, quand on lui demande, mais pourquoi, parce que on n'arrête pas de demander à quelqu'un qui a commis un meurtre, mais pourquoi tu l'as fait, quoi. Elle ne dit pas, c'est pas un crime passionnel.
Ah non, absolument pas.
Elle ne le met pas du côté du crime passionnel.
Non, mais c'est pas un crime passionnel. C'est un ensemble de faits. Elle s'est, à mon avis, enfermée dans un tourbillon, dans une spirale infernale, et la seule issue pour elle, c'était de supprimer Philippe Glietti.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Laurence Perbet? Alors, il y avait ces relations qui... Ça fait partie, évidemment, de l'histoire.
Ça en fait partie, mais je pense surtout qu'il y avait... elle attendait une reconnaissance professionnelle de la part de Philippe Glietti, peut-être même un titre sur une fiche de paye qu'il refusait de lui donner. Et puis, apparemment, elle voulait être le numéro 2... Et il avait proposé à quelqu'un d'autre de le devenir. Donc je pense que c'était une femme qui avait accumulé des frustrations énormes, des manques, des blessures. Ouais. Et à un moment, elle le dit, ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer.
Mais en général, oui.
Non, j'allais dire, pour reprendre sa phrase, c'était il fallait que tout s'arrête.
Il fallait mettre un terme à tout ça.
Parce que souvent, il y a quand même ce qu'on appelle un élément déclencheur. Souvent, dans cette émission, des psychiatres nous parlent. L'un d'entre eux a utilisé cette expression que je trouve très juste, en tout cas pour un certain nombre d'affaires. le mot gâchette, quoi. C'est-à-dire, là, on prononce un mot, on décide quelque chose, et ça, c'est comme c'est, voilà, quoi.
C'était le point financier
c'est...
que...
Alors, c'est quoi? Alors, c'est l'histoire, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de détournement ou de, moi, je parlais d'irrégularité tout à l'heure.
Il avait, prévu pour le lundi. Ouais.
Alors, les points financiers, il en faisait de plus en plus, ça tombait, en effet, les lundis après-midi. Oui. C'était un moment qu'elle redoutait,
parce elle, que elle les était chiffres la comptable, n'étaient...
elle faisait elle la... oui, de la comptabilité, oui, bien sûr, elle avait une fonction de comptable aussi en même temps. Elle redoutait ce moment parce que les chiffres étaient pas bons depuis plusieurs années. L'entreprise était dans le rouge dans plusieurs banques. Enfin bon, ça n'allait pas. Oui. Et d'après ce qu'elle me disait quand elle rentrait le soir, par exemple, de ses points financiers, elle me disait j'ai l'impression d'être la responsable de cet échec qu'on subit en ce moment. Il me fait des reproches, c'est de ma faute si l'argent ne rentre pas. Ben voilà, donc c'était vraiment sa hantise.
Ouais. Réalité, elle a été mise à jour par l'enquête.
Mais la réalité, c'était quand même aussi que sur 7 ans, elle a détourné une somme d'argent colossale. Donc voilà,
c'est colossal.
Bah 40 000 euros.
Ah oui,
donc c'est quand même à signaler. Alors, je pense qu'elle avait aussi peur que ça se découvre. Et que, voilà, elle aurait été licenciée pour faute grave. Elle était complètement déboulonnée de son piédestal à ce moment-là.
C'est ça. Donc, tout s'arrête. Ses relations avec le patron, ouais. Mais aussi l'image d'elle-même par rapport aux autres
bien
employés.
Sûr.
Quoi,
bien
c'est
sûr.
Ça. Je voyais pas tout à fait d'accord sur l'analyse.
Si, si mais Laurence en Perbet. Fait, 40 000 euros, ouais. C'est 40 000 euros sur 7 ans. Donc, en fait,
ça
je
reste
pense
40 000.
Que non. C'est vrai. Oui, mais c'est vrai aussi que sur 7 ans, il y a quand même. Je pense qu'elle s'octroyait un salaire qu'elle estimait mérité.
Ah oui, d'accord.
En prenant, enfin,
écoutez,
c'est
pas,
votre analyse. Moi, c'est ce que je.
Non, mais bon.
C'est mon avis.
Je vais pas donner à l'antenne son salaire, mais elle avait un salaire très confortable pour un poste où elle se consacrait à 200%. Attention, hein.
Oui.
Donc,
elle avait tout donné. Ouais. Elle estimait qu'elle valait sans doute plus.
Ouais. Peut-être, oui.
Et parce qu'il n'y avait pas non plus de train de vie.
Non, pas du tout.
C'était pas de l'enrichissement.
Non.
C'était vraiment
vrai.
Qu'elle pensait, je pense, valoir.
Ouais. Alors,
plus que ce qu'on lui donnait.
Maintenant, on va faire une pause et ensuite on va parler de cette condamnation, de ce réquisitoire d'abord. C'est-à-dire, elle est mise en accusation pour assassinat, pas pour meurtre oui. Prémédité. Donc il y a la notion de voilà d'avoir préparé de longue date, d'avoir mis au point un scénario, etc., etc. Et on va parler de ça dans un instant.
Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
Nous parlons du procès de Bettina Beau, condamnée à 18 ans de prison pour assassinat. On en parle avec son ex-mari, je n'ai pas dit parce que vous avez divorcé, on peut revenir là-dessus tout à l'heure, à la suite de ce drame. Donc on en parle avec vous, Philippe Beau, et avec Laurence Perbet, qui est journaliste au journal Le Progrès, qui a suivi le procès pour son journal. Sur ce qui a pu motiver l'accusation d'assassinat et non pas de meurtre, je ne sais pas lequel d'entre vous peut, on ne va pas tout redécortiquer, mais le jour du meurtre, qui donne le rendez-vous à qui ?
Apparemment,
est-ce que c'est un piège dans lequel tombe le PDG parce qu'elle a décidé de l'assassiner
ça,
ou
ça paraît, ça paraît évident depuis le départ.
D'accord. Elle a pris l'arme, elle l'a avec elle.
Dans ce coin perdu, alors peut-être sur un prétexte sexuel, on ne le sait pas, mais en fait.
Et elle ne l'a pas dit en tout cas, elle-même.
Non.
Oui. Non, d'après l'enquête, elle avoue prendre l'arme à 5h du matin, donc le lundi, et elle le convoque, oui, pour la fin de matinée. Alors, le rendez-vous coquin, entre guillemets, a été évoqué. Maintenant, je ne sais pas si c'est la réalité.
Voilà, et elle ne l'a pas confirmé, en tout cas.
Je ne sais pas, sais pas.
Son attitude, Laurence Perbet, pendant ce procès, quelqu'un qui a tout mis sur la table.
Oui.
Oui, elle cherche pas d'excuses.
Non, elle n'a pas cherché d'excuses et surtout, donc, elle l'a dit dès le départ. Je dirais la vérité la plus juste possible. Encore fallait-il qu'elle-même sache vraiment quelle était la vérité. C'est pas aussi simple. Mm-hmm. C'est pas aussi simple.
Ouais.
Mais je pense que vraiment, c'était une femme à bout. Elle a comme une cocotte minute qui explose parce que elle a accumulé des frustrations, des ambitions déçues, et je pense que parce que au départ on n'y croyait pas. Les avocats parlaient effectivement de ce harcèlement, de cette pression professionnelle. C'est vrai qu'on a du mal à y croire. Mmh. On était vraiment parti sur l'aspect passionnel ou sur le crime même crapuleux. Mmh. Et puis à l'épreuve du procès et à la défense effectivement de Maître Metaxas, on se dit oui, il a payé malheureusement pour toutes les frustrations qu'elle avait accumulées depuis l'enfance. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment.
Philippe Beau, vous témoignez à charge ou à décharge? C'est très compliqué comme situation, la vôtre.
Moi, je me trouve au moment du procès dans une situation, oui, compliquée, parce que je suis face à une femme avec qui j'ai partagé 24 années de vie, et bon, j'ai dû réfléchir bien en amont à ce que j'allais dire. Donc, je n'ai fait simplement pendant 2 heures. Je suis resté 2 heures à la barre. J'ai fait un récit du parcours de ces 24 années, en appuyant un peu plus, bien sûr, sur les derniers instants, hein, mais en disant la vérité. Alors, on m'a reproché cette vérité, bien évidemment, puisque je n'allais pas dans le sens de la défense à un certain moment. Donc ça, on me l'a reproché. Ouais. Mais c'est pas.
Et vous l'avez fait en conscience. Bien sûr. Vous êtes beaucoup posé de questions sur.
Oui, forcément. Pendant 2 ans.
On l'a pas dit, mais elle vous avait dit quelque chose quand même de difficile à comprendre. Elle vous a dit, mais je t'aime toujours.
Oui. Devant la grille de la gendarmerie, avant d'entrer, et puis donc de faire ses aveux aux gendarmes, elle m'a dit, ça peut paraître idiot, mais je t'aime toujours. Oui. Ce à quoi j'ai pas répondu, parce que j'étais tellement sous le choc de ce qui venait de se passer. Mais il est évident que c'était très fort entre nous deux, et ça se balaye pas comme ça d'un revers de main. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à pardonner surtout ce mal qu'elle a fait à notre fille. On me dit oui, mais de toute façon, dans ces moments-là, le criminel ne pense pas, ne réfléchit pas, il est dans. Ok, d'accord, peut-être. Mais c'est quand même c'est ce qui m'est le plus dur aujourd'hui à avaler, passez-moi l'expression.
Ouais. Voilà. Comment vous envisagez maintenant la suite, parce que ça fait, le procès date du printemps dernier, c'est tout frais. Hein. Vous correspondez ou vous n'avez plus de
on n'a plus de rapport. Elle m'a téléphoné au début de son incarcération. D'ailleurs, j'étais assez surpris parce qu'elle était assez sereine quand je posais des questions sur le déroulement, de comment ça s'était passé, etc. Elle me répondait très sereinement, comme si elle était libérée de quelque chose, vous voyez, et qu'elle pouvait en parler normalement. Voilà. Oui. Donc ça, c'était quand même assez surprenant pour moi. Moi aujourd'hui, je vis au jour le jour. Hein, je fais pas de projet particulier. Je le répète, il y a tout un monde qui s'est effondré. Aujourd'hui, il faut que je me reconstruise. Et ça, à 54 ans, c'est pas toujours évident.
Oui.
C'est pas toujours facile.
Vous avez vu un psy ou
non.
Vous êtes votre propre psy, parce que vous avez couché sur le papier.
Oui,
vous avez,
alors,
en micro, ça, vous avez écrit cette histoire.
C'est enfin, ça. Voilà, j'ai écrit cette histoire. Bon, je l'ai un tout petit peu romancée pour essayer de la faire publier. Hein. Quand je dis romancée, c'est-à-dire que j'ai transposé les faits, j'ai changé les noms, bien évidemment. Mais sinon,
c'est pas un document sur une affaire criminelle, d'accord.
Non, c'est une autofiction. Ouais. On va appeler ça comme ça. Voilà.
Mais ça vous a fait du bien de.
Ah, ça m'a soulagé. Alors au départ, j'ai commencé à écrire pour me souvenir de tous les éléments en vue du procès, parce qu'on a tendance, avec le temps, à oublier un petit peu les détails qui peuvent être importants. Et puis après, c'est devenu un vrai livre. Oui, tout à fait.
Ouais. Quel titre?
Alors le titre, c'est « Les pommes ont un goût amer ». Alors bien sûr, ça, comme ça veut rien dire. Mais les pommes, en fin de compte, c'est un petit tableau, une petite peinture à l'huile que je lui avais offert, et c'était vraiment son tableau. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il prenne une place importante dans le salon. C'était ses pommes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce tableau, bah, il a un petit peu un goût amer.
Je vous remercie beaucoup Philippe Beau, merci Laurence Perbet, parce que ce procès restera quand même quelque part. Vous suivez beaucoup de procès, mais celui-là, hein, il demeure un procès qui vous a particulièrement marqué. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Le Progrès. L'émission est terminée, on retrouve Flavie Flamand dans un petit instant.